11. Sauf que tout n'est pas allé bien, devina Roland. Il se roulait une cigarette avec précaution en récupérant les quelques miettes au fond de son sac. Le papier était cassant et le tabac même n'était plus que de la poussière. « Non, en effet, acquiesça Callahan. Roland, je n'ai pas de papier à cigarette, mais je peux vous avoir quelque chose de mieux que ça. Il y a du bon tabac à la maison. »«
Du tabac du Sud. Moi, je n'en ai pas l'usage, mais Rosalita aime bien fumer une petite pipe le soir. »
Ce n'est pas de refus, je vous dis grand merci, mais plus tard, répondit le pistolero. Le tabac ne me manque pas autant que le café, mais presque. Finissez votre histoire, n'omettez aucun détail. Il me semble qu'il est important que nous sachions tout, mais le temps manque, je sais.
Oui, confirma Roland, le temps manque.
Alors, pour résumer, disons que mon ami a attrapé cette maladie. On l'a finalement appelé sida, c'est ça ?
Il regardait Eddie qui fit bruit de la tête.
D'accord. Celui-là ou un autre, même s'il me fait plutôt penser à un bonbon allégé en sucre. Vous savez peut-être que la maladie ne se déclare pas toujours rapidement, mais dans le cas de mon ami, elle a démarré comme un feu dans une meule de foin. À la mi-mai 1976, Lope Delgado était tombé très malade. Il avait perdu ses couleurs. La plupart du temps, il était brûlant de fièvre. Il lui arrivait de passer toute la nuit aux toilettes, à vomir. Rowan l'aurait banni de la cuisine si Lope ne s'en était pas banni lui-même. Et puis, les taches ont commencé à apparaître.
On les appelle « sarcome de Kaposi, je crois », précisa Eddie. « C'est une maladie de peau qui défigure. »
Callahan hocha la tête. 3 semaines après l'apparition des taches, Lope était hospitalisé au New York General. Rowan Magruder et moi, nous sommes allés le voir un soir, vers la fin juin. Jusque-là, nous nous disions que tout finirait bien, qu'il s'en sortirait plus fort que jamais, qu'il était jeune et robuste, bon sang. Mais ce soir-là, à la minute où on a pénétré dans la chambre, on a su que c'était terminé. On l'avait placé sous une tente à oxygène. Il avait des perfusions dans les bras, il souffrait effroyablement. Il ne voulait pas qu'on s'approche de lui. Il disait que c'était peut-être contagieux. En réalité, personne ne semblait savoir grand-chose.
Ce qui était d'autant plus effrayant, dit Suzanne.
Oui, il nous a dit que les médecins pensaient qu'il s'agissait d'une maladie du sang transmise par les rapports homosexuels ou par le partage des seringues. Et il voulait absolument qu'on sache, et il n'arrêtait pas de le répéter, qu'il était clean, que toutes les analyses étaient revenues négatives. Je n'ai rien touché depuis 1970, pas même une bouffée sur un joint, je le jure devant Dieu. Nous avons répondu que nous savions qu'il était clean. Nous nous sommes assis de chaque côté du lit. Et il nous a pris la main.
Callahan déglutit. On entendit très distinctement un clic dans sa gorge.
Nos mains, il nous les a fait laver avant de partir. Au cas où, il a dit. Et puis, il nous a remerciés d'être venus. Il a dit à Rowan que le foyer était la meilleure chose qui lui soit arrivée, et qu'en tout cas pour lui, c'était vraiment son foyer. Jamais je n'ai eu autant besoin d'un verre que cette nuit-là en quittant l'hôpital. Je suis resté tout près de Rowan et tous les deux nous sommes passés devant les bars, un à un. Cette nuit-là, je me suis couché sobre. Mais allongé, là, je savais que ce n'était qu'une question de temps. C'est le premier verre qui mourut ivre, c'est ce qu'on dit aux alcooliques anonymes. Et je savais que le mien n'était plus très loin. Quelque part, un barman attendait que je franchisse la porte pour pouvoir m'en servir un double.
Deux jours plus tard, Loupé est mort. On devait être 300 aux obsèques, pour la plupart des gens qui étaient passés par le foyer. On pleura beaucoup, des choses merveilleuses furent dites, certaines par des gens qui n'auraient pas pu marcher sur une ligne droite. À la fin de la cérémonie, Rowan Magruder est venu me prendre par le bras et il m'a dit « Je ne sais pas qui tu es, Don, mais je sais ce que tu es. Un sacré type bien et un foutu poivreau, sobre depuis... quand déjà ?» J'ai songé à continuer la comédie, mais tout à coup ça m'a paru trop dur. « Depuis octobre de l'année dernière, » ai-je répondu. « Et t'en voudrais un, là ?» c'est écrit sur ta tête. « Alors je vais te dire, si tu penses que prendre un verre va nous ramener Loupé, tu as ma permission. En fait, viens carrément me chercher, on ira ensemble au Blarney Stone et on commencera par vider mon portefeuille. Ok ?»« Ok, » j'ai dit. Et alors il a ajouté, « Si tu te saoules aujourd'hui, c'est vraiment le pire hommage à rendre à Loupé. Ce serait comme aller pisser sur son visage mort. » Il avait raison, et je le savais. J'ai passé le reste de cette journée comme j'avais passé mon deuxième jour à New York, à déambuler, à lutter contre ce goût dans ma bouche, à lutter contre la pulsion de m'acheter une bouteille et de me trouver un banc dans un parc. Je me revois sur Broadway, puis sur la 10e avenue, puis je suis redescendu jusqu'au croisement de Park Avenue et de la 30e rue. Mais alors la nuit est tombée. Dans les deux sens, les voitures avaient allumé leurs phares. À l'ouest, le ciel était tout orange et rose, et les rues étaient baignées de cette splendide lumière longiligne. Un sentiment de paix m'a soudain envahi. Et je me suis dit, je vais gagner. Ce soir, au moins, je vais gagner. Et c'est alors que le carillon s'est mis à résonner. Plus fort que jamais. J'avais l'impression que ma tête allait éclater. Park Avenue s'étendait en scintillant devant moi et je me suis dit, rien de tout ça n'est réel. Ni Park Avenue, ni quoi que ce soit d'autre. Ce n'est rien d'autre qu'un gigantesque morceau de toile. New York n'est rien d'autre qu'un décor peint sur cette toile. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, rien. Rien du tout. Rien que le noir. Puis les choses sont redevenues stables. Le carillon s'est affaibli. Puis il a disparu. Je me suis remis en marche, très lentement. Comme quelqu'un qui se déplacerait sur une fine couche de glace. Je craignais, si j'avançais trop pesamment, de plonger et de me retrouver hors du monde, dans le noir derrière. Je sais que ça n'a absolument aucun sens. Bon Dieu, même à l'époque, je le savais. Mais savoir n'est pas toujours d'un grand secours. Pas vrai? En effet, répondit Eddie en repensant au jour où il sniffait de l'héroïne avec Henry. « C'est vrai, » dit Suzanne. « Exact, » fit Roland, se remémorant Jericho Hill et le corps perdu. « J'ai fait quelques mètres, puis 10, puis 20. J'ai commencé à me dire que ça allait bien se passer. Enfin, il y aurait sans doute toujours l'odeur et je verrais deux ou trois types 3, mais je savais faire face à ces choses-là. D'autant plus que les types 3 ne semblaient pas me remarquer. Les observer, c'était comme assister à un défilé de suspects à travers une glace sans teint dans un commissariat. Mais cette nuit-là, j'ai vu autre chose. Quelque chose de bien pire qu'une bande de vampires.
« Vous avez vu quelqu'un ?» « Qui était mort ?» fit Suzanne.
Callahan se tourna vers elle avec un air totalement sidéré. « Comment... Comment avez-vous...
Je le sais, parce que moi aussi, j'ai été vadash à New York.
Nous l'avons tous été.
Roland dit qu'il s'agit de gens qui ne savent pas qu'ils sont morts ou bien qui refusent de l'accepter. Ils sont...
Comment dis-tu, Roland ?
Des morts errants, répondit le pistolero. Ils ne sont pas très nombreux.
Ils sont bien assez nombreux comme ça, répliqua Callahan. Et eux me voyaient tel que j'étais. Des estropiés sur Park Avenue, dont un homme qui n'avait plus d'yeux, une femme à qui il manquait le bras et la jambe droit, et brûlé sur tout le corps, et tous les deux qui me regardaient, moi, comme si je pouvais les réparer, en quelque sorte. J'ai couru, et j'ai dû courir fichtrement loin parce que, quand j'ai recouvré un semblant de santé mentale, j'étais assis sur le trottoir au coin de la 2e avenue et de la 19e rue, la tête baissée, soufflant comme une locomotive. Un vieux bonhomme est venu me demander si ça allait. J'avais suffisamment repris mon souffle pour lui répondre que oui. Il m'a dit que dans ce cas-là, je ferais mieux de bouger parce qu'il avait vu une voiture de patrouille et qu'elle venait justement dans notre direction. Il me ferait déguerpir, peut-être même qu'il m'embarquerait. J'ai regardé le vieillard dans les yeux et je lui ai dit « J'ai vu des vampires. J'en ai même tué un. Et j'ai vu des morts vivants. Tu crois vraiment que je vais avoir peur d'une voiture de patrouille ?» Il a reculé, m'a dit de ne pas l'approcher, que j'avais l'air correct et qu'il avait voulu rendre service, et qu'il était bien mal récompensé. « À New York, toute bonne action est punie », a-t-il lancé avant de s'éloigner en piétinant comme un gamin qui pique une colère. J'ai éclaté de rire. Je suis descendu du trottoir et je me suis regardé. Ma chemise était sortie de mon pantalon. J'avais des saletés partout sur les jambes. J'avais dû courir dans quelque chose, mais impossible de me rappeler quoi. J'ai jeté un œil autour de moi et là, par Dieu et tous les saints, j'ai aperçu l'Americano Bar. J'ai appris plus tard qu'il y en avait plusieurs dans New York, mais ce jour-là, j'ai cru que celui de la 40e et quelques avait déménagé rien que pour moi. Je suis entré, j'ai grimpé sur le tabouret au bout du bar, et quand le barman s'est approché, je lui ai dit « Vous m'avez mis quelque chose de côté. »
« C'est vrai, mon pote ?»«
Oui, j'ai répondu. » « Eh ben, si tu me disais plutôt ce que c'est, que je te le serve. » C'est du Bushmills, et vu que tu me le gardes depuis octobre, pourquoi tu n'ajouterais pas les intérêts en m'en servant un double ? Eddie grimaça.
« Mauvaise idée, l'ami. »
À l'époque, ça m'a semblé la meilleure idée qui ait jamais germé dans l'esprit d'un homme. Je ne penserai plus à louper. J'arrêterai de voir des morts, peut-être même des vampires, les moustiques, comme je les appelais pour moi-même. À 8 heures, j'étais sous. À 9 heures, j'étais fin sous. À 10 heures, j'avais pris la cuite de ma vie. Je me rappelle vaguement le barman en train de me mettre dehors. Je me rappelle un peu mieux le réveil le lendemain matin dans le parc, sous une couverture de papier journal.
« Retour à la case départ, » murmura Suzanne.
« Si fait, jeune dame, retour à la case départ, vous dites vrai. Grand merci à vous. Je me suis redressé. J'ai cru que ma tête allait exploser. Je me la suis calée entre les genoux et quand j'ai constaté qu'elle n'explosait pas, je l'ai relevée. Il y avait une vieille femme assise sur un banc à une quinzaine de mètres de moi, juste une vieille femme avec un fichu sur la tête, avec entre les mains un sac en papier rempli de noix qu'elle donnait à manger aux écureuils. Sauf que de la lumière bleue lui baignait les joues et le front, et qu'elle entrait et sortait de sa bouche à chaque respiration. Elle était des leurs, un moustique. Les morts vivants avaient disparu, mais je voyais toujours les types 3. Me saouler une nouvelle fois m'est apparu comme la solution logique. Mais il y avait comme un petit problème. Je n'avais pas d'argent.
On m'avait apparemment dépouillé pendant que je cuvais sous mes journaux, et l'affaire était réglée. Callahan sourit, pas d'un sourire aimable. Ce jour-là, je l'ai trouvé, l'agence Manpower. Le lendemain aussi, et le surlendemain. Et puis, je me suis saoulé. C'est devenu ma routine, l'été de la course des grands voiliers, travailler 3 jours en restant sobre. La plupart du temps, ça signifiait pousser une brouette sur un chantier ou bien hisser d'énormes cartons pour des sociétés de déménageurs pour passer la 4e nuit à prendre la cuite du siècle et le lendemain à récupérer. Et ainsi de suite. Repos le dimanche. Ce fut ma vie à New York cet été-là. Et où que j'aille, j'entendais partout cette chanson d'Elton John. « Someone saved my life tonight ». Je ne sais pas si c'était l'été de sa sortie, mais ce que je sais, c'est que je l'entendais partout. Une fois, j'ai travaillé 5 jours de suite pour les déménageurs Covey. L'équipe des frangins, ils se faisaient appeler. En termes de sobriété, ça a été ma meilleure performance de tout le mois de juillet. Le responsable est venu me voir le 5e jour, et il m'a proposé de m'engager à plein temps. « Je ne peux pas. » Et j'ai répondu, les contrats d'intérim nous interdisent clairement d'accepter un travail avec une compagnie extérieure pendant 1 mois. Oh, laisse tomber ces conneries, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que t'en dis, Denis? T'es un type bien. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu pourrais faire un peu plus que charger des meubles dans le camion. Tu veux y réfléchir ce soir? J'y ai réfléchi, mais la réflexion m'a mené à la boisson, comme à chaque fois cet été-là. Comme à chaque fois pour ceux qui ont besoin d'alcool pour agir. Et me voilà assis dans un petit bar, en face de l'Empire State Building, à écouter Elton John sur le jukebox. Tu m'avais presque planté tes griffes dans la peau, et quand je suis retourné travailler, je me suis inscrit dans une autre agence d'intérim. Une qui n'avait jamais entendu parler de cette putain d'équipe des frangins. Callahan avait craché le mot « putain » avec une sorte de hargne désespérée, comme le font les hommes pour qui la vulgarité est devenue le dernier recours linguistique. Vous buviez, vous vous laissiez aller, puis vous travailliez, résuma Roland. Mais un autre boulot vous attendait aussi, cet été-là, n'est-ce pas? Non! Mais il m'a fallu un petit moment pour m'y mettre. J'en ai vu plusieurs. La femme aux écureuils dans le parc était la première, mais ils ne faisaient rien. Enfin, je savais ce qu'ils étaient, mais j'avais du mal à envisager de les tuer de sang-froid. Et puis une nuit, dans Battery Park, j'en ai vu un en train de se nourrir. Je m'étais équipé d'un cran d'arrêt. Je l'avais en permanence dans ma poche. Je me suis approché de lui par derrière, je l'ai poignardé 4 fois, une fois dans les reins, une fois entre les côtes, une fois dans le haut du dos et aussi dans le cou. J'ai mis toutes mes forces dans le dernier coup. La lame est ressortie de l'autre côté, elle s'était plantée dans la pomme d'Adam de la chose comme un chiche kebab dans un morceau de viande. Le tout avec comme un bruit de déchirure. Callahan décrivait la scène d'un ton neutre. Mais il était devenu très pâle. Il s'est reproduit la même chose dans la ruelle du foyer. Le type a disparu, ne laissant que ses vêtements. Je m'y attendais, mais je ne pouvais pas être certain avant d'en avoir revu un faire pareil. « Une hirondelle fait pas le printemps ?» fit Suzanne. Callahan acquiesça. La victime était un gamin d'une 15aine d'années, il avait l'air portoricain ou dominicain. Il avait une sound machine posée à ses pieds. Je ne me rappelle pas ce qu'il jouait. Je ne me rappelle pas ce qu'il jouait, c'est que ça devait pas être « Someone saved my life tonight ». Il s'est passé 5 minutes. Je m'apprêtais à lui tapoter les joues quand il a cligné des paupières, puis il a titubé et secoué la tête, et il est revenu à lui. Il m'a vu debout, là, en face de lui, et son premier réflexe a été d'empoigner sa sound machine. Il l'a serré contre sa poitrine comme un bébé, puis il a dit « Qu'est-ce que tu veux, mec ?» J'ai rien répondu, pas un mot. Mais il n'empêche que j'étais très curieux au sujet des vêtements. Le gamin a posé les yeux dessus, puis s'est accroupi et a commencé à fouiller dans les poches. Je me suis dit qu'il avait trouvé de quoi s'occuper et je suis parti. Et voilà pour le deuxième. Pour le troisième, ça a été plus facile. Pour le quatrième, encore plus. À la fin août, j'en avais eu une demi-douzaine. Le sixième, c'était la femme que j'avais aperçue dans la file d'attente à la banque. Le monde est petit, pas vrai? Régulièrement, j'allais au coin de la première avenue et de la 47e rue, en face du foyer. Parfois, en fin d'après-midi, je me retrouvais à épier les poivrons et les sans-abri qui rentraient pour dîner. Parfois, Rowan sortait leur parler. Il fumait pas, mais il avait toujours des cigarettes sur lui, un ou deux paquets, et il les distribuait. Je n'ai jamais fait d'effort particulier pour me dissimuler, mais s'il m'a aperçu un jour, il n'en a rien montré.
« Vous aviez probablement changé à l'époque, » dit Eddie.
Callahan hocha la tête. Les cheveux m'arrivaient à l'épaule et commençaient à grisonner. La barbe. Et bien sûr, je ne prenais plus aucun soin de mes vêtements. La moitié de ce que je portais alors, je l'avais récupéré sur les vampires que j'avais tués. L'un d'eux était coursier et il avait une paire de bottes de moto super. Pas des mocassins balis, mais presque neuves et à ma taille. Ces trucs-là durent une éternité, je les ai toujours. » Il désigna la maison d'un signe de tête. « Mais je crois pas que tout ça ait joué dans le fait qu'il ne m'ait pas reconnu. Dans la branche de Magruder, où on travaille au milieu d'ivrognes, de sans-abri et de toxicos qui ont un pied dans la réalité et l'autre dans la quatrième dimension, on est habitué à voir les gens changer du tout au tout et en général, pas en bien. On s'entraîne à reconnaître les visages sous les nouveaux bleus et les couches de crasse. Je crois plutôt que j'étais devenu un de ceux que vous appelez les morts errants, Roland. Invisible pour le reste du monde. Mais je pense que ces personnes, ces anciennes personnes, restent liées à New York.
« Elles ne vont jamais bien loin, » acquiesça Roland.
Il avait fini sa cigarette. Le papier sec et les miettes de tabac avaient disparu entre ses doigts en deux bouffées. « Les fantômes hantent toujours la même maison. » « Bien sûr, les pauvres. Et moi, je voulais partir. » Chaque jour, le soleil se levait un peu plus tôt, et chaque jour, je ressentais un peu plus fort l'appel de ces routes, de ces autoroutes occultes. C'était sans doute dû en partie à cette légendaire thérapie géographique à laquelle je crois avoir déjà fait allusion. Il s'agit de cette croyance très solide et pourtant totalement irrationnelle que tout va changer sous prétexte qu'on change de lieu, que la pulsion d'autodestruction va disparaître comme par magie. Il y avait indéniablement cet espoir que dans un lieu plus vaste, je n'aurais plus à faire face aux vampires ou aux morts vivants. Mais il n'y avait pas que ça. Le problème était de taille. Callahan sourit, une fine ligne qui ne fit que lui découvrir le bout des dents. « Les vampires, » suggéra Eddie. Callahan se mordit la lèvre, puis reprit avec un peu plus de conviction. « Oui, mais pas que les vampires. Je sais bien que c'était l'hypothèse la plus logique, pourtant il n'y avait pas que ça. Je savais au moins que ce n'étaient pas non plus les morts. Ils me voyaient, mais je leur étais totalement indifférent, sauf peut-être à ceux qui espéraient encore que je pourrais les réparer ou mettre fin à leur souffrance. Mais, comme je vous l'ai dit, les types 3 ne pouvaient pas me voir. Pas comme un prédateur, pour eux en tout cas. Et ils ont des cycles d'attention courts, comme si, dans une certaine mesure, ils étaient atteints par l'amnésie qu'ils transmettaient à leurs victimes. Je me suis rendu compte que j'avais des ennuis à Washington Square Park, un soir, peu de temps après avoir tué la femme de la banque. Ce parc était devenu un de mes repères, mais Dieu sait que c'était pas le seul. L'été, il prenait régulièrement des allures de dortoir à ciel ouvert. J'avais même mon banc préféré, même s'il n'était pas libre tous les soirs. Il faut dire que je n'y allais même pas tous les soirs. Cette nuit-là, une nuit d'orage étouffante, je suis arrivé vers 8 heures. J'avais ma bouteille dans mon sac en papier et un recueil des cantos des Apound. Je me suis approché du banc et là, sur un autre banc près du mien, j'ai vu un graffiti peint à la bombe qui disait « Il vient ici, il a une brûlure à la main. » « Oh, Dieu du ciel !» dit Susanna en portant la main à sa gorge. J'ai immédiatement quitté le parc et j'ai dormi dans une impasse à 500 mètres de là. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit, j'étais l'objet désigné par le graffiti. 2 jours plus tard, un soir, j'en ai vu un autre sur le trottoir devant un bar sur Lexington Avenue où j'aimais prendre un verre et parfois un sandwich quand j'étais en fond, comme on dit. Il avait été dessiné à la craie et sous l'effet des pas répétés n'était plus qu'une ombre, mais il demeurait lisible. Il vient ici, il a une brûlure à la main. On avait dessiné des comètes et des étoiles autour du message, comme si son auteur avait essayé de le déguiser. 20 mètres plus bas, peint sur un panneau d'interdiction de stationner, le message suivant. Ses cheveux sont presque blancs maintenant. Le lendemain matin, sur le flanc d'un bus, son nom est peut-être Collingwood. 2 ou 3 jours plus tard, j'ai commencé à voir des affichettes d'animaux perdus dans tous les coins que je fréquentais. Needle Park, l'entrée ouest de Central Park, le bar City Lights sur l'Aix, quelques clubs de musique folklorique et de poésie dans le village. « Des affichettes d'animaux ?» fit Eddie d'un air songeur. « En fait, c'est magistral en un sens. Elles étaient toutes identiques. » précisa Callahan. Avez-vous vu notre setter irlandais? Il est vieux et bête, mais nous l'aimons. Patte avant droite brûlée. Il répond au nom de Kelly ou encore Collins et Collingwood. Grosse récompense. Le tout suivi d'une série de dollars dessinés. À qui pouvaient s'adresser des affiches de ce genre? Demanda Suzanne. Callahan haussa les épaules.
« J'en sais rien, en fait. Ou vampire, peut-être. »
Eddie se frotta le visage avec lassitude.
« Bon, récapitulons. Nous avons des vampires de type 3 et les morts errants. Et voilà qu'entre en scène un troisième groupe. Des types qui se baladent en posant des affiches qui n'ont rien à voir avec des animaux perdus et qui taguent sur les édifices et sur les trottoirs. De qui s'agit-il ?
« Des ignobles ?» répondit Callahan. C'est comme ça qu'ils se font appeler, bien qu'il y ait aussi des femmes parmi eux. Ils se surnomment aussi les régulateurs. Pour la plupart, ils portent de longs manteaux jaunes, mais pas tous. Beaucoup ont aussi des cercueils bleus tatoués sur les mains, mais pas tous.
« Les grands chasseurs du cercueil, Roland, » murmura Eddie.
Roland acquiesça, mais sans quitter Callahan des yeux.
Laissez-le parler, Eddie. Ce qu'ils sont vraiment,
ce sont des soldats du roi cramoisi, dit Callahan. Et il se signa. 12. Eddie sursauta.
La main de Susanna se porta de nouveau à son ventre, qu'elle se mit à caresser. Quant à Roland, il se prit à repenser à leur promenade dans Gage Park, après avoir échappé à Blaine. Les animaux morts aux eaux, la roseraie, le manège et le train miniature. Puis la route de métal menant à cette autre route de métal plus grande encore, qui dit Susanna et Jake appelaient une autoroute. Là, sur un panneau rouillé, quelqu'un avait gravé au couteau « Attention aux marcheurs !» Et sur un autre panneau, orné du dessin grossier d'un œil, ce message « Vive le roi cramoisi !»
« Je crois que vous avez entendu parler du monsieur, » fit Callahan d'un ton sec.
« Disons qu'il a fait en sorte de laisser sa marque afin que nous la trouvions, » précisa Susan.
Callahan inclina la tête en direction de Tonnefoudre. « Si votre quête vous mène là-bas, » dit-il, « vous verrez beaucoup plus que quelques messages peinturlurés sur les murs. »
« Et vous ?» demanda Heidi. « Qu'avez-vous fait ?»«
Pour commencer, je me suis assis et j'ai réfléchi à la situation. Et j'ai décidé que, quelque fantastique et paranoïaque que cela pût paraître, j'étais réellement traqué. Et pas nécessairement par des vampires de type 3. Même si, bien entendu, je ne mesurais pas à l'époque que ceux qui laissaient des graffitis et des affiches n'auraient aucun scrupule à utiliser les vampires contre moi. » Rappelez-vous qu'à l'époque, je n'avais aucune idée de l'identité de ce mystérieux groupe. À Jerusalem Slot, Barlow avait emménagé dans une maison dans laquelle s'étaient déroulées des scènes de violence terribles et qui était réputée pour être hantée. Meers, l'écrivain, disait que la maison du mal avait attiré l'homme du mal. C'est à cette conclusion que m'a ramené ma réflexion la plus productive. À New York, j'ai commencé à croire que j'avais attiré un autre roi vampire, un autre type 1, tout comme Martenhouse avait attiré Barlow. Que l'idée fût sensée ou pas, elle ne l'était pas en l'occurrence, j'ai été rassuré de constater que mon cerveau, imbibé ou pas, était encore capable de fonctionner avec logique. La première décision à prendre pour moi, c'était de rester à New York ou de m'enfuir. Je savais que si je ne fuyais pas, ils me rattraperaient tôt ou tard, probablement tôt. Ils avaient une description de moi, avec un indice de taille. Callahan leva sa main mutilée. Ils avaient presque mon nom. D'ici une semaine ou deux, ils le connaîtraient avec certitude. Ils identifieraient tous mes points de chute, tous les endroits où mon odeur était restée. Ils trouveraient des gens qui m'auraient parlé, avec qui j'avais traîné ou joué aux cartes et aux dames. Des collègues de mes missions pour Manpower ou Bodyman. Ce qui m'a conduit à une conclusion à laquelle j'aurais dû arriver bien plus tôt, même après un mois de soûlerie ininterrompue. J'ai compris qu'il finirait par trouver Rowan Magruder, le foyer et des tas d'autres gens qui m'avaient connu là-bas. Des travailleurs intérimaires, des bénévoles, des dizaines d'habitués, mon Dieu, des centaines d'habitués, au bout de 9 mois. Et pour couronner tout ça, il y avait l'appel de ses routes. Il se tourna vers Heidi et Susanna.
Vous savez qu'il y a une passerelle vers le New Jersey au-dessus de l'Hudson. Elle se trouve quasiment dans l'ombre du pont George Washington, une passerelle de planches, le long de laquelle il reste quelques abreuvoirs pour les vaches et les chevaux sur l'un des côtés.
Heidi éclata de rire comme un homme dont on secourait vivement les appendices du bas.
« Désolé, mon père, mais c'est impossible. J'ai dû aller sur le pont George Washington environ 500 fois dans ma vie. Henry et moi, on allait sans arrêt à Palisades Park. Il n'y a pas de passerelle de planche. »
« Pourtant, si, » répondit Callahan d'un ton calme. « Elle remonte au début du 19e siècle, je dirais, même si elle a été retapée plusieurs fois depuis. » En fait, vers le milieu, il y a un panneau qui indique « Restauration du bicentenaire effectuée par les industries Lamerck ». Je me suis rappelé ce nom la première fois que j'ai vu Andy le robot. Si on en croit la plaque sur sa poitrine, c'est la compagnie qui l'a fabriqué, lui aussi.
« Nous aussi, nous avons déjà vu ce nom, » dit Eddie. « Dans la cité de Ludd, sauf que là-bas, il s'agissait de la fonderie Lamerck. Probablement différents départements d'une même compagnie, suggéra Susanna.
Roland ne dit rien, mais se contenta de faire ce petit geste d'impatience en faisant de petits moulinets avec les deux doigts qui lui restaient à la main droite. Dépêchons, dépêchons.
Elle est bien là, mais elle est difficile à voir, fit Callahan. Elle est cachée, et ce n'est que la première des autoroutes occultes. Elle rayonne autour de New York comme une toile d'araignée.
Des autoroutes baradaches, murmura Eddie. Mettez-vous bien ça dans le crâne.
Je ne sais pas si c'est bien ça, reprit Callahan. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu des choses extraordinaires lors de mes pérégrinations dans les années qui ont suivi, et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens bien. Il pourrait paraître insultant de les appeler des gens normaux ou des gens ordinaires, mais ils étaient les deux, et de ce fait, ils donnent au terme « normal » et « ordinaire » une certaine noblesse à mes yeux. Je ne voulais pas quitter New York sans revoir Rowan Magruder. Je voulais lui dire que, même si j'avais pissé au visage de Loupé, je m'étais saoulé, je pouvais pas dire le contraire, je n'avais pas complètement baissé mon pantalon et fait le reste. Ce qui signifie, avec ma façon maladroite de dire les choses, que je n'avais pas renoncé. Et que j'étais bien décidé à ne pas m'enfuir désespérément comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Callahan s'était remis à sangloter. Dans sa manche de chemise, il s'essuya les yeux.
J'imagine que je voulais aussi dire au revoir à quelqu'un et que quelqu'un me dise au revoir. Ces au revoir, ce qu'on dit et ce qu'on entend, ce sont les preuves que l'on est encore en vie après tout. Je voulais le prendre dans mes bras et lui faire passer le baiser que Loupé m'avait donné, avec le même message. Tu es trop précieux pour qu'on te perde.
Il aperçut Rosalita qui descendait l'allée en se pressant avec sa jupe qui balançait, et il s'interrompit. Elle lui tendit un morceau d'ardoise sur lequel on avait écrit quelque chose à la craie. L'espace d'une seconde, Eddie s'imagina qu'il s'agissait d'un message décoré de lunes et d'étoiles du genre « Perdu, chien errant, patte avant mutilée, répond au nom de Roland, mauvais caractère, tendance à mordre, mais on l'aime quand même ».
« Ça vient d'Eisenhart, » leur dit Callahan en relevant la tête. Dans le coin, on peut dire que Coverholzer est le gros fermier, Kevin Took est le gros homme d'affaires, et qu'Eisenhart est le gros rancher. Ils nous donnent rendez-vous avec les Slightman père et fils et votre Jake quand les cloches de Notre-Dame sonneront midi, si cela vous sied. On ne sait pas toujours ce qu'il a derrière la tête, mais il doit vouloir vous faire faire le tour des fermes, des ranchs et des petites exploitations sur le chemin du retour vers le Rocking Bee, où vous passeriez la nuit. Est-ce que ça vous sied ?
Pas vraiment, répondit Roland. J'aurais voulu avoir ma carte avant d'aller voir les environs.
Callahan réfléchit un instant, puis se tourna vers Rosalita. Eddie comprit que cette femme devait être bien plus qu'une simple gouvernante. Elle s'était retirée à une distance respectueuse, sans retourner jusqu'à la maison. « Comme une bonne secrétaire, se dit-il. » Le vieux n'eut pas à lui faire signe. Elle approcha dès qu'elle vit son regard. Ils échangèrent quelques mots, puis Rosalita s'éloigna.
« Je suggère que nous déjeunions sur la pelouse de l'église, » proposa Callahan. « Il y a là un vieil arbre de fer qui nous fera une ombre agréable. Le temps que nous mangions, je suis sûr que les jumeaux Tavery auront quelque chose pour vous. »
Roland acquiesça, satisfait.
Callahan se leva en grimaçant, portant les mains à ses reins et s'étira.
« Quant à moi, j'ai quelque chose à vous montrer maintenant. »«
Vous n'avez pas fini votre histoire, » lui fit remarquer Suzanne.
« C'est vrai, » répondit Callahan, « mais le temps presse. Je peux marcher et parler en même temps, si vous autres vous pouvez marcher et écouter en même temps. »«
C'est possible, » dit Roland en se levant lui-même. Il souffrait, mais la douleur était supportable. L'huile de chat de Rosalita valait vraiment le détour. Avant que nous y allions, je voudrais que vous me disiez deux choses.
Si je le peux, pistolero, grand bien.
Les auteurs des messages, vous les avez rencontrés lors de vos voyages? Callahan hocha lentement la tête.
Si fait, Pistolero, je les ai rencontrés.
Puis, avec un regard vers Eddie et Susanna. Vous avez déjà vu des photos couleurs prises avec un flash où tout le monde a les yeux rouges?
Ouais, fit Eddie. Leurs yeux sont comme ça. Des yeux cramoisis. Et cette seconde question, Roland?
Sont-ils les loups, mon père? Ces ignobles? Ces soldats du roi cramoisi?
Sont-ils les loups?
Callahan hésita un long moment avant de répondre.
Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, finit-il par dire. Pas à 100%, intuitez-le. Mais je ne le pense pas. Ce sont des ravisseurs, c'est certain, même s'ils ne s'en prennent pas qu'aux enfants.
Il réfléchit un moment à ce qu'il venait de dire.
Ce sont des loups, en un sens.
Il hésita, réfléchit encore, puis conclut.
Si fait, ce sont des loups.